C'est parti pour un dimanche de campagne, l'émission qui fait le point sur la semaine en cours, qui revient sur la semaine écoulée et qui se projette sur la semaine à venir. Et là, c'est peu dire qu'on en attend beaucoup de celle qui débutera demain. On devrait enfin connaître le nom de celui ou de celle qui succédera à Jean Castex, car cette fois, c'est sûr, Matignon, pour lui, c'est fini.
Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex.
Et si c'était une femme qui remplaçait Jean Castex? Et oui, en 2022, on en est encore à poser la question. Car en France, cela ne s'est produit qu'une seule fois, il y a 30 ans. C'était Edith Cresson. Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir Claire.
Ce soir, vous allez lui consacrer vos bobineaux.
Oui, et ça a été un peu l'enfer pour elle, vous verrez.
Effectivement, à l'époque, un député, François Daubert, l'avait même comparé à la Pompadour.
Oui, monsieur Daubert, 200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir.
Voilà, on écoutera tout ça en longueur tout à l'heure. Emmanuel Macron, lui, sait déjà qui il va nommer. C'est en tout cas ce qu'il affirmait lundi dernier lors de son déplacement à Berlin.
Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre.
Alors pourquoi fait-il autant traîner les choses? On posera la question à ceux qui vont nous accompagner jusqu'à 19h. Laureline Dupont, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Marcel Ovesfred, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Grand reporter au Parisien aujourd'hui en France, où vous suivez plus particulièrement Emmanuel Macron. On fera le point également sur les investitures pour les législatives, car cette fois c'est presque bouclé. On verra aussi les endroits où il y a dissidence et les endroits où cela a coincé. Bonsoir Alex Darmon.
Bonsoir Claire.
Youtubeur politique avec nous tous les dimanches pour Olike Citoyen, l'actualité politique vue des réseaux sociaux. Vous êtes intéressé à un désormais ex-candidat qui a fait la une cette semaine.
Oui, c'était Abouaf, l'enfant des réseaux sociaux. On en parlera et on verra comment il s'est servi de ces réseaux sociaux.
Au programme également, la semaine politique de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef. Merci à Fred Milano à la réalisation et à Florian Dorimini à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Cela fait donc 3 semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu président. 3 semaines et pourtant, rien ou presque n'a changé. Les ministres ont déjà fait leur carton depuis un moment. Ils n'en finissent pas d'expédier les affaires courantes et n'attendent plus que la démission du gouvernement pour passer à autre chose. Mais pour l'instant, Jean Castex est toujours là. Il a même été privé de sortie aujourd'hui, alors qu'il devait se rendre au Vatican pour une cérémonie de béatification. Il a été obligé de rester, car Emmanuel Macron s'est envolé pour Abu Dhabi afin de saluer la mémoire du défunt président des Émirats Arabes Unis. Or, il faut bien que quelqu'un pour garder la maison. Alors certains commencent à trouver le temps long. Pas du tout, leur répond François Bayrou, le président du Modem, était sur LCI aujourd'hui.
Il n'est pas inutile d'avoir, quand l'élection est finie, une période où l'on se pose pour mettre les choses en ordre et pour peut-être constituer de nouvelles équipes. Je pense qu'on aurait pu imaginer que le gouvernement de Jean Castex aille jusqu'aux élections législatives. Mais vous voyez, cette période d'intermandat, elle va être évidemment marquée par le résultat des élections législatives et il n'est donc pas stupide qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir à tout ça.
On a un petit peu de temps, 3 semaines, c'est Laureline Dupont, c'est quand même un peu long, non ?
Oui, c'est long. Cela dit, il avait quand même pris soin de prévenir parce que je me souviens que certains de nos interlocuteurs avec lesquels on discutait au lendemain ou même la veille du second tour de la présidentielle disaient il va prendre son temps, il va pas se précipiter, etc. Maintenant, la question que vous posiez, c'est pourquoi autant de temps? Alors, je pense déjà parce qu'il a passé lui-même en personne beaucoup de temps sur les législatives, qu'il a vraiment pris les classeurs avec les candidatures, prenant soin de rayer certains candidats, de regarder ligne à ligne, etc. Donc ça, mine de rien, ça occupe son temps de cerveau disponible. Et puis ensuite, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas exclure, qui est que quand il dit lundi, oui, bien sûr, je sais, mais chaque chose en son temps, peut-être qu'il ne sait pas en réalité. Et peut-être qu'il est un peu filou et qu'il a du mal à trouver la personne idoine, parce qu'il faut aussi rappeler que quand on a à ce point vidé la fonction de Premier ministre de sa substance comme il l'a fait, mais qu'en même temps on a le souhait de faire un coup de com' comme il l'espère là, bah ça rend les choses très compliquées. Comment faire un coup de com' avec quelqu'un qu'on va, j'allais dire piétiner, j'exagère, mais en tout cas qu'on va utiliser comme un simple exécutant?
Marcel Ovesfred, est-ce que c'est possible ça de penser qu'il a dit qu'il savait alors qu'il savait pas?
Oui, en tout cas, il a intérêt à le dire, puisque au moment où il le dit, il commence à y avoir déjà des rumeurs ou des fuites dans la presse. Nous, Parisiens, on avait sorti par exemple l'entrevue entre Véronique Bédague, ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, et le secrétaire général de l'Élysée, donc le bras droit du président de la République, pour lui proposer Matignon. Et c'est une piste qui a été depuis confirmée par beaucoup de gens dans l'entourage. Donc, quand vous avez des refus et que ça se sait, ça devient un peu gênant. Alors ça, c'est une hypothèse aussi qu'il faut prendre en compte. Peut-être ça prend du temps parce que son casting idéal, il a du mal à le constituer. Peut-être aussi pour des raisons de fond. Parce que la réforme des retraites à 65 ans, c'est peut-être difficile de la faire porter par une personnalité issue de la gauche, puisque c'était l'un des souhaits. Ensuite, il y a des problèmes récurrents en Macronie, c'est que Emmanuel Macron, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dès qu'il s'agit de faire une nomination. Alors là, il fallait faire les investitures et le gouvernement. Donc, on est face à des questions qui sont à des sujets qui sont rationnels et d'autres qui sont des blocages.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a une part de stratégie là-dedans pour l'annoncer le plus tard possible, pour booster les législatives, Thomas?
Ouais, ça, c'est ce que nous disent les macronistes, parce que vous savez, quand quelque chose traîne ou quand quelque chose ne va pas, il faut mieux feindre d'organiser tout ça. C'est la vieille maxime, quand vous ne maîtrisez pas les événements, etc. Moi, peu importe que le Premier ministre soit nommé ou pas maintenant, le seul problème, et qui est à mon avis beaucoup plus important, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne qui s'impose. C'est-à-dire que les gens, les macronistes que vous interrogez en ce moment, ils vous citent des noms comme Catherine Vautrin, donc issue de la droite, ou bien comme Marisol Touraine, issue de la gauche, et ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, comme si finalement tout ça était uniquement dans la tête d'Emmanuel Macron et ne résultait pas d'une situation politique. Alors pour un quinquennat qui devait changer ça, c'est-à-dire qui devait maintenant prendre en compte ce qui se passe dans la société, d'ailleurs ça rend la nomination du Premier ministre beaucoup plus importante, c'est-à-dire ça veut dire que le Premier ministre n'est plus un collaborateur. Si on dit que maintenant les corps intermédiaires vont être mis en branle, si on dit qu'on va écouter tout le monde, qui c'est qui fait ça au jour le jour? C'est le Premier ministre. Donc c'est une décision importante, et moi je suis estomaqué qu'on puisse dire que ça peut tomber à gauche ou à droite, et que les macronistes, ils n'en savent rien et ils attendent comme tout le monde, au lieu de dire attendez, on a fait une campagne, et le discours de Marseille, c'est quelque chose le discours de Marseille, écologiste, social, il faut changer de paradigme, mon quinquennat sera écologiste ou pas, et on nous dit que ça peut être une première ministre dont Catherine Vautrin, dont on ne sait pas qu'elle était écologiste, d'ailleurs personne n'a trouvé de trace de son écologie. Donc on est encore dans le bon vouloir présidentiel, je trouve ça hallucinant moi.
Mais c'est exactement ce que disait Lorraine Dupont.
Oui, mais en même temps, pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas Legrand, il a dit que le Premier ministre devait être chargé de la planification écologique, pas qu'elle devait ou il devait avoir une fibre écologique. En gros, c'est encore
organisé,
une fois...
Il devait organiser... Il devait organiser une consultation, la société
donc,
serait mise en branle,
on en est
etc.
encore au Premier ministre exécutant, qui finalement se charge de mettre en œuvre les idées sorties de l'esprit brillant d'Emmanuel Macron.
C'est le chef d'une majorité, il est issu d'ailleurs, il faudra en reparler après législatif, parce que ça doit être issu de la majorité. Bon, toutes les chances que ça soit la même majorité, on y reviendra tout à l'heure, mais... moi, je trouve qu'il y a une dépolitisation. Ça peut tomber de l'un côté ou de l'autre, comme si c'était un bon coup. Quel serait le meilleur coup? Il nous surprendrait, il nous ferait un contre-pied. Ça serait bien joué de nommer quelqu'un de droite ou de gauche. Non, il y a une situation politique et ça doit découler d'une situation politique. Et comme on ne le dit même pas, enfin, les macronistes eux-mêmes n'arrivent pas à le dire, ça veut vraiment dire que la Macronie n'existe pas.
Alors, si on prend par exemple les 5 années écoulées, Marcelo Westfred, qu'on voit comment fonctionne la Macronie justement, comment fonctionne Emmanuel Macron, de qui a-t-il vraiment besoin? De quelqu'un qui soit quand même un élu de terrain, a priori, pour aller serrer des mains, comme l'a fait Jean Castex? Ça fait partie du casting, c'est important?
Pour un président qui a vécu les gilets jaunes et qui est sans arrêt, qui subit le procès en déconnexion, il a besoin effectivement de quelqu'un qui soit... un élu qui connaisse un peu la politique, et puis il est revenu du début de 2017, de son aventure, où il était sur « on va tout changer, on veut des gens de la société civile », il a vu depuis les limites, et maintenant c'est très frappant, il va vraiment vers des professionnels de la politique, donc des professionnels, des élus qui ont une expérience de terrain. Ça, c'est, on peut comprendre qu'il en ait besoin pour éviter les crises qu'il a subies pendant le quinquennat. Après, attendons quand même demain, on verra si puisque a priori c'est demain la démission et la nomination dans la foulée d'un nouveau Premier ministre, on verra si les promesses qu'il a faites à Marseille,
c'est pas
comme à
lui qui, c'est pas, ah bah si. C'est, non, non, mais c'est pas, il c'est a pas dit... lui que je critique, c'est tellement, c'est plutôt la majorité, c'est-à-dire que, et donc lui d'une certaine façon, parce que c'est lui qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, et pour la majorité, bah voilà, c'est normal. Bon, il n'y a pas de situation.
Alors jusqu'à présent, il a nommé deux premiers ministres de droite. Ouais. Est-ce qu'il peut se permettre de renommer encore une personne qui vient de la droite, Lorraine Dupont, d'après vous ?
Moi, je pense qu'il peut tout à fait se permettre, parce que je ne suis pas d'accord avec Thomas Legrand, pardon. Mais c'est lui qui préside, c'est lui qui décide. Il nous l'a montré pendant le premier quinquennat.
Mais il peut tout à fait, bien sûr.
Il n'est pas question qu'il change dire le contraire de... contrairement à ce qu'il a dit. Donc, je vois pas, en fait, peu importe que son premier ministre soit de gauche.
Ça serait juste en contradiction avec ce qu'il a dit pendant dans l'entre-deux-tours.
Ben, je vois pas tellement de contradictions. Ah, parce que c'est lui qui va donner, donner l'impulsion et les
chances. Chacun son tour. Chacun son tour.
Marseille, où il dit, il faut qu'il fasse de la planification écologique. Mais surtout, Sergi, il nous dit, donc, alors, il vient d'être élu, il nous dit, je veux quelqu'un qui ait une fibre sociale, productive, et écologiste.
Et on peut avoir cette fibre en étant de droite.
Oui, mais enfin, si les premières caractéristiques
évidemment, on peut tout et le contraire de tout, effectivement. Si le signe, c'est ça, oui.
Alors, vous allez quand même vous mouiller tous les deux, Laureline Dupont et Marcel Westfred. Vous avez forcément des noms à nous donner, qui ça pourrait être, Marcel Westfred.
Le nom qui est beaucoup monté ce week-end, c'est celui de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, qui a été une ancienne ministre de droite. Alors, elle a beaucoup de choses, elle est enracinée. Puisqu'elle est une élue, députée pendant de nombreuses années, mais elle a aussi des inconvénients par rapport à la fiche de poste, parce que par exemple, elle a été une partisane, enfin une opposante, par exemple, au mariage pour tous. Donc ça commence déjà dans la Macronie, notamment tous ceux qui viennent de la gauche, ils sont crispés. Et encore tout à l'heure au téléphone, il y en a plein qui ne veulent pas y croire, qui se pincent en se disant pourvu que ce soit pas elle. Après les remaniements, vous pouvez en juillet 2020, l'équipe le dimanche soir n'était pas la même que celle qui est sortie du chapeau lundi matin. Donc les choses peuvent quand même changer, y compris il peut y avoir des gens qui tiennent la corde et puis il y a tellement de levées de boucliers que ces personnes sont rétrogradées.
Alors je rebondis juste sur ce que vous disiez à propos de Catherine Vautrin, Alex Darmon. Mmh. Les réseaux sociaux s'en emparent tout de suite dès qu'il y a un nom pour aller refaire le pédigré, le CV, vérifier ce que la personne a pu faire dans le passé.
C'est un peu comme à l'époque du Covid, dès qu'il y avait des annonces qui sortaient ou qui étaient en phase d'être annoncées, les réseaux sociaux s'en saisissaient et disait on est au courant de quelque chose. Mais là, c'est un peu pareil, en fait. Ça va très vite. Et dès qu'il y a un nom qui en ressort, on le répète, on le récupère et on voit s'il existe sur les réseaux sociaux. Catherine Vautrin, c'est pas vraiment le cas. Ça n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà.
Laureline Dupont, alors Marcel Westfred s'est mouillé,
oui, et vous me mouillez.
Oui, je vais quand même. Vous risquez pas grand chose, cela dit. Hein.
Oui, non, mais nous n'avons pas d'infos certaines. Alors, non, mais l'autre nom qui a circulé avant celui de Catherine Vautrin, c'était celui d'Elisabeth Borne, qui a ensuite semblé disparaître un peu parce qu'on a parlé aussi d'Audrey Azoulay, etc., et qui là semble revenir un petit peu dans le jeu parce que. À l'inverse de Catherine Vautrin, c'est quelqu'un d'issu de la gauche, même si l'opinion publique le sait encore finalement peu. Néanmoins, les critiques qui lui étaient faites de la part, y compris de la Macronie, c'est qu'elle a ce côté énarque, ce côté un peu élite, et donc elle vient aussi un peu techno, exactement, et qu'elle vient appuyer sur un reproche qu'on fait beaucoup à Emmanuel Macron, qui est cette déconnexion entre les élites et le peuple. Donc tout est encore discutable.
En tout cas, je note bien que vous avancez des noms de femmes. Hein.
Il faut souligner qu'on n'en sait rien.
Exactement.
On n'en sait rien.
On n'en sait absolument rien.
On n'en sait rien, Thomas, mais on en arrive à vos bobineaux.
Ah.
Parce qu'une femme à Matignon, ça s'est produit une seule fois et ça commence à dater. Édith Cresson avait été nommée par François Mitterrand en mai 91, elle est restée en poste moins d'un an. Elle avait déjà une longue carrière politique derrière elle, élue locale, parlementaire, ministre à plusieurs reprises, agriculture, affaires européennes, industrie, commerce extérieur. Et pourtant Thomas, à Matignon, rien ne lui a été épargné.
Non, alors donc c'était une première en 91, les femmes ministres étaient alors très minoritaires et jamais à des postes régaliens. Simone Veil avait été ministre de la santé lors de la loi sur l'avortement et non pas de la justice comme on le croit souvent. Il faudra attendre 1997 et Elisabeth Guigou à la justice pour voir une femme en charge d'un portefeuille régalien. Édith Cresson avait été ministre de l'agriculture déjà et une première pour une femme, et le patron de la FNSEA d'ailleurs avait dit vous voyez en quelle estime François Mitterrand tient l'agriculture pour y avoir mis une femme. Bon, donc, mais en 1991 Édith Cresson est donc nommée à Matignon. François titre l'atout charme de Mitterrand. Le quotidien de Paris titre Matignonne. Et dans la salle des quatre colonnes, les commentaires sexistes vont bon train, comme celui du député UDF François Daubert.
Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson. Il y a un parallélisme certain.
Comparé à une favorite,
Oui, c'est extraordinaire.
C'est M. Daubert, je crois qu'il
est. C'est M. Daubert, oui, M. Daubert. 200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir.
Je lis les journaux et je me marre, hein.
Vous vous marrez.
Toi aussi, à ma botte, tu te marres. Hein, que tu te marres. Allez, fais voir que tu te marres.
Ah, oui, oui, oui.
Voilà, François Daubert et la réaction d'Edith Cresson, suivie de, d'un extrait du Bébête Show, ce programme satirique sur TF1, qui tous les soirs décrivait à ce moment-là la Première Ministre en soubrette à la botte du Président. Écoutez ce que Denise Cacheux, députée socialiste, racontait juste après le discours de politique générale d'Edith Cresson.
J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue », etc. « Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un.
Le soir même, Michel Alliot-Marie, député RPR, est invité à la télévision pour commenter le discours inaugural de la Première Ministre.
J'ai envie de vous demander, Madame Alliot-Marie, d'abord comment vous avez trouvé le look d'Edith Cresson. Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer ?
Écoutez, moi ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Edith Cresson est Premier Ministre, et c'est le Premier Ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut en parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, enfin ?
Voilà, bien envoyé, hein. Michel Alliot-Marie.
On revient de loin quand même, hein. Même si y a encore des choses à redire, Lorraine Dupont, on a quand même fait du chemin depuis 30 ans. Edith Cresson, elle est interrogée dans les colonnes du JDD aujourd'hui, elle dit « c'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique ». Et puis elle souhaite aussi beaucoup de courage à celle qui sera nommée, si jamais c'est une femme qui
on
est...
On a la classe politique qu'on mérite.
Je pense qu'elle a raison de lui souhaiter beaucoup de courage, en effet. Non, mais ce qui est un peu, ce que je trouve un peu malheureux aujourd'hui, c'est que finalement, on a quand même le sentiment que si une femme est nommée à Matignon encore là en 2022, c'est beaucoup pour le coup de com. On a le sentiment qu'il y a chez Emmanuel Macron l'envie de faire ce que François Mitterrand, qui reste quand même un modèle pour lui, a fait avant lui. Et au final, dans tous ces débats sur une femme, oui, une femme, pas une femme, etc., on oublie quand même beaucoup, je trouve, la question des compétences. Enfin, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte en disant cela, mais c'est quand même à déplorer, je trouve.
Marcel Westred.
Alors, incontestablement, le quinquennat qui vient de s'achever, il y a eu des avancées, puisqu'on a eu au Parlement, à l'Assemblée, on a eu un nombre de femmes vraiment considérable, et ça, c'est à mettre au crédit de d'En Marche. Et néanmoins, quand on regardait dans le détail tous les postes de pouvoir, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est pas seulement de faire un exemple, d'avoir une femme, et puis pour le reste, les postes de pouvoir, c'est-à-dire les directeurs de cabinet, les présidents de groupe, les présidents de parti, la majorité, évidemment, le président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, c'est l'ensemble de la structure qui est restée masculine et c'est là que se fait le pouvoir.
Effectivement, et ça, ça va pas changer tout de suite. On va revenir maintenant sur l'actualité des derniers jours.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle sur cette campagne législative et cette semaine, il nous a fait entendre comme une légère attente. Et oui, le maître des horloges, the master of the horloge, a encore frappé. Et là, il a décidé de battre tous les records. 3 semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu. Vous en parliez, 3 semaines que l'on attend un Premier ministre, voire une Première ministre. Et pourtant, il paraît qu'Emmanuel Macron sait qu'il sera bientôt à Matignon. C'est en tout cas ce qu'il disait lundi dernier.
Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses... en bon ordre.
Voilà, ça c'était il y a 6 jours et aujourd'hui Jean Castex est toujours enfermé à Matignon. Mais n'allez pas croire pour autant que le président rame, c'est en tout cas ce que nous dit Christophe Castaner.
Mais il ne rame pas, il prend son temps. Et donc il organise cela, il consulte, il échange, il poursuit son travail. Et ne vous inquiétez pas, la France aura un gouvernement, je n'ai aucun doute sur le sujet.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il a agité le camp de l'extrême droite. Là encore, il y avait de l'attente. Éric Zemmour a mis fin à ses hésitations. Jeudi, il a annoncé qu'il serait bien candidat aux élections législatives. Son lieu d'atterrissage, la 4e circonscription du Var, celle qui comprend notamment Saint-Tropez. Et oui, c'est dans la ville du maréchal des logis, Ludovic Cruchot, qu'Éric Zemmour a décidé de tenter sa chance. Il avait obtenu un peu plus de 14% des voix dans cette circonscription. Éric Zemmour a justifié sa décision de se présenter ici.
Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez, ça ne se réduit pas non plus des riches dans des villas. Il y a aussi des gens plus modestes, il y a aussi des logements sociaux.
À l'extrême droite toujours, mais cette fois dans le camp du Rassemblement National, Marine Le Pen en a bel et bien terminé avec ses vacances. Cette semaine, elle est revenue dans les médias, aux 20h de TF1, puis d'abord, puis chez nos confrères de RTL. Et visiblement, elle a passé pas mal de temps à regarder ce qui se passait chez le voisin.
J'ai vu les Républicains s'effondrer, j'ai vu une escroquerie politique se monter avec la NUPES. J'ai vu pas grand-chose du côté d'Emmanuel Macron, faut être honnête, hein, puisqu'il n'a strictement rien fait, même pas de Premier ministre.
Et non, toujours pas. Quant aux Républicains, on sent que la convalescence risque de prendre du temps. Gérard Larcher estime d'ailleurs qu'il va devoir se transformer en ingénieur du BTP pour tout revoir chez les Républicains.
C'est un échec d'ailleurs qui dépasse la seule élection présidentielle. C'est comment on renoue avec cette partie des Français, notamment qui travaillent, qui ont une vie quotidienne parfois difficile. Et c'est une responsabilité que nous avons en rebâtissant, me semble-t-il, du sol au plafond, notre famille politique.
Le président du Sénat sait que ces législatives s'annoncent compliquées pour son parti. Rachida Dati aussi en est consciente. On l'a d'ailleurs entendu cette semaine invoquer les forces de l'esprit sur un marché parisien.
Voilà, alors vous pouvez prier pour nous. Et puis et puis on peut faire des intentions de prière, non? On en a besoin. Priez pour voilà. Nous, hein. Pauvres pécheurs.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, il nous a rappelé que la vie de la NUP n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a bien sûr le cas Taha Bouaf, ce qui a créé des remous, une affaire en plusieurs épisodes sur laquelle reviendra Alex Darmon dans quelques minutes. Et puis, il y a ces candidatures dissidentes qui se multiplient. Tout n'est pas simple dans cette nouvelle colloque de gauche. Alors, Alexis Corbière appelle tout le monde à se serrer les coudes.
Utilisons ces 5 semaines pour, comment dirais-je, valoriser la belle nouvelle D'accord. Union populaire que nous avons mis en place. Je ne nie pas, je ne conteste pas qu'évidemment nous sommes des femmes et des hommes de caractère, mais j'invite chacun à ce que on n'exacerbe pas éventuellement ce qui ici ou là est un frottement, parce que je n'en vois pas l'intérêt.
Oubliez les désaccords pour se concentrer sur les bienfaits de l'Union. Le message passe encore difficilement chez certains socialistes. Si l'ancien ministre Patrick Kanner reconnaît qu'il permettra quand même à son parti de garder un groupe à l'Assemblée, il craint d'y être à l'étroit.
Mais c'est un groupe qui est cloisonné. On est un peu dans un enclos, un accord minimum, mais qui nous empêche de prospérer. C'est l'histoire qui nous dira si c'est un bon accord.
On le sait, François Hollande est lui aussi contre cet accord entre les socialistes et les insoumis. Et cette semaine, l'ancien président a pointé du doigt la confusion politique qui règne actuellement selon lui dans le pays.
Quand on ne sait plus la différence entre la gauche, la droite, ceux qui ont gouverné hier. Je voyais Jean-Pierre Raffarin émerveillé de d'Emmanuel Macron. C'est bien à son âge d'être émerveillé comme ça. D'avoir Marisol Touraine qui dit tout est possible. Sous-entendu, moi aussi je suis là, tout est possible. Donc Emmanuel Valls qui regarde gourmand ce que peut-être on lui donnera demain. Bon voilà. Et ben quand les Français voient ça, ils se disent mais c'est quoi la vie politique? C'est donc une affaire d'arrangement, de place.
L'occasion pour moi de vous citer Necfeu. Je me sens hypocrite, je plonge dans les tentations volontairement. Un péché en plus, un billet en moins, on est tous responsables en partie du monde que l'on bâtit. L'égoïsme et le manque d'empathie, tout le monde en pâtit.
Vous avez des lettres, merci beaucoup Cyril Lacarrière. Alors toujours à l'écoute d'un dimanche de campagne avec ce soir Marcel Westfred du Parisien aujourd'hui en France, Laureline Dupont de l'Express, Alex Darmon, youtubeur politique et Thomas Legrand de France Inter. Il y a beaucoup de choses dans cette semaine politique, on va reprendre les choses dans l'ordre à propos des législatives. Pour rappel, le premier tour c'est dans 4 semaines tout juste le 12 juin, le second tour une semaine plus tard le 19 juin. La majorité sortante ira au combat sous la bannière Ensemble, sorte de confédération rassemblant Renaissance, Feu la République en marche, le Modem et Horizon, le parti d'Edouard Philippe, je ne me trompe pas, jusque-là, oui, Marcel Westfred, c'est bon. Les 500 premiers candidats investis ont été conviés mardi au Doc d'Aubervilliers pour une sorte de journée de formation express. Emmanuel Macron est venu les motiver. Invraisemblable, dit Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de Dimanche en politique aujourd'hui sur France 3 à la mi-journée.
Le président de la République en personne est allé haranguer les candidats à la législative. C'est la première fois qu'on voit ça. Vous imaginez De Gaulle en train de faire une réunion du RPF alors qu'il était président de la République. Bon, alors maintenant, le chef de l'État est aussi le directeur de campagne des législatives. Et il leur a dit quelque chose qui est très discutable. Il dit le troisième tour, ça n'existe pas. Et parmi ces hommes avancés, comme M. Guérini, il a dit « le but de l'élection, c'est de donner une majorité au président ». Bon ben, si c'est ça, pourquoi on fait une élection? Il n'y a qu'à nommer les gens. Non, l'élection est bien le troisième tour.
Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Est-ce que cette élection est le troisième tour? Et d'abord, est-ce que c'est normal que le président soit le directeur de campagne, Marcel Westphal?
Là, on est vraiment à front renversé parce que la critique émane de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas candidat aux législatives, mais qui veut être élu Premier ministre, qui est déjà tordu d'un point de vue institutionnel, en logique institutionnelle. Et le président qui va au doc de Paris-Aubervilliers pour haranguer des candidats, alors qu'il n'a toujours pas de Premier ministre, de nouveau Premier ministre, c'est aussi un peu étonnant. On avait à une époque un président de la République qui recevait les parlementaires à l'Élysée, c'était Nicolas Sarkozy. François Hollande ne voulait plus en entendre parler. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il allait dans des ministères, par exemple, aux relations avec le Parlement, haranguer, motiver un peu toutes ses troupes. Là, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et j'ajoute quelque chose, c'est d'autant plus bizarre que à la fin de cette semaine, on rentre dans ce qu'on appelle la période de réserve. C'est-à-dire que les ministres qui vont être nommés là dans cette semaine, ils ne pourront pas annoncer des choses à partir de dimanche prochain.
Donc
ça veut dire que si par exemple ils veulent faire une campagne, si la majorité veut faire une campagne autour du pouvoir d'achat, il va bien falloir qu'ils annoncent des choses, des boucliers, des aides, des choses comme ça.
Notamment un projet de loi dont on nous parle, qui est déjà prêt quasiment.
Alors c'est ce qu'ils disent, mais tout ça le gouvernement a une semaine pour l'annoncer. Après ils n'ont plus le droit de l'annoncer, parce que la période de réserve fait qu'avant une élection, le gouvernement se met en retrait et n'annonce plus de nouvelles choses. Ça n'empêche pas les ministres de prendre une voiture de location et d'aller faire un meeting, mais ils ne peuvent plus annoncer de nouvelles choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne, elle va être faite par qui? À nouveau par le président de la République, comme on a eu une campagne très courte par le président de la République et des ministres ou des macronistes d'une façon générale qui n'ont pas existé pendant la campagne présidentielle.
Alors la campagne menée par Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même pas aller soutenir des candidats sur le terrain, si? Laurine Dupont, c'est possible ça?
Je sais pas si c'est une bonne question. En même temps, avec lui, on n'est jamais à l'abri de surprises. Mais non, la campagne menée par Emmanuel Macron, ça veut dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire déjà le fait qu'il ait apporté un grand soin aux candidats investis ou aux candidats désinvestis. Et puis le fait aussi qu'il ait regardé de près l'équilibre des différents groupes qui vont constituer la majorité, parce que c'est quand même ça aussi le sujet pour Ensemble, on peut peut-être en dire un mot, c'est que la majorité, c'est-à-dire le groupe En Marche, est un groupe puissant, sans doute le plus puissant, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, et qu'il soit ensuite soutenu par le Modem, qui va constituer un bout de la majorité, et le parti d'Edouard Philippe Horizon, bref, et qu'à l'occasion de cette législative, il continue à, pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe, à faire travailler la poutre à droite. C'est ça l'un des enjeux majeurs pour la majorité, là, lors de ces législatives, et auquel Emmanuel Macron s'attache énormément. Et donc, dans ce cadre-là, il a passé du temps, pas seulement à haranguer les candidats à Aubervilliers, mais aussi à passer des coups de fil pour débrancher des sortants, par exemple, pour mettre à leur place des candidats de droite. Alors, c'est pas l'exemple.
Pas rentré dans tous les détails, mais est-ce qu'il y a des personnalités marquantes qu'il a débranchées?
Alors là, l'exemple qui me vient, c'est pas tellement une personnalité marquante, et c'est pas pour mettre directement un candidat de droite. C'est plus subtil que ça, mais justement, ça illustre bien aussi le temps que ça lui prend en termes de réflexion stratégique. La 8e circonscription des Hauts-de-Seine, dans laquelle il y a un député LREM qui s'appelle Jacques Maire, qui là a été débranché pour laisser la place à une porte-parole d'En Marche qui s'appelle Prisca Thévenot, mais qui va former un binôme avec une adjointe au maire de Meudon, bref, qui est de droite, pour essayer d'obtenir le soutien de tous les maires de droite de la circonscription. Ça, d'après ce qu'on sait, Emmanuel Macron a beaucoup travaillé à ce sujet avec son conseiller à l'Élysée qui s'appelle Thierry Solaire, qui est accusé par Gérard Larcher d'être le meilleur braconnier, on va dire,
va chercher chez LR.
Exactement.
Ce qu'on peut chercher.
Exactement. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça lui prend du temps, et c'est l'un des enjeux à observer aussi pour ces législatives, pour la majorité. Voilà.
Et à surveiller aussi les circonscriptions qui sont réservées.
Et voilà. Et il y a des circonscriptions comme celle de Damien Abad, le président de groupe des LR à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de candidat de la majorité en face de lui, qui n'en aura a priori pas, et pour lequel on espère, enfin je dis on, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qu'il apporte son soutien à la majorité une fois élu.
Mais si je vous entends bien, ça veut dire que s'il met le cap à droite, ça risque de remotiver la gauche, cette histoire, non Thomas Legrand?
Oui, on peut, oui, évidemment, si le Premier ministre...
Est-ce qu'il s'inquiète déjà, Emmanuel Macron, de
ce qui se passe à gauche? Je ne sais pas s'il s'inquiète si le Premier ministre est à droite, c'est une bonne surprise pour la NUP. Mais là, on est en train de parler des institutions et de la pratique des institutions.
Non, mais je parle des législatives déjà. Est-ce que ça l'inquiète, la NUP, Marcel Westphal?
Alors, ce qu'on entend, mais c'est peut-être une rationalisation des choses, mais c'est que certains disent c'est bien finalement parce que notre électorat qui peut être démotivé, ne pas aller voter aux législatives, là il se dit tiens, il y a un vrai danger avec une politique infaisable. Je cite ce que disent les macronistes avec un Jean-Luc Mélenchon qui veut être à Matignon. Et donc ça motive les gens et ils vont aller voter. Alors que Marine Le Pen, elle est assez discrète. C'est vrai qu'elle est partie en vacances. Ensuite, elle est revenue tout en disant que de toute façon, elle resterait dans l'opposition. Puis qu'on verra, peut-être qu'à la prochaine présidentielle, elle sera pas candidate. C'est vrai que ça fait... Il y a moins de dramatisation, moins de menaces imminentes, visibles. Et en tout cas, voilà ce qu'il nous a dit, c'est que ça crée une tension qui peut pousser le socle macroniste à aller voter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rationalisation a posteriori, les deux sont possibles.
Alors vous avez raison de parler de Marine Le Pen parce que elle a clarifié ses objectifs cette semaine pour ses législatives. Elle tape sur 60 députés au moins. Elle a clairement pris pour cible la NUP et son chef de file, c'était chez nos confrères de RTL.
Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, si un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, c'est-à-dire avec les défenseurs des Black Blocs, les défenseurs du burkini à la piscine, ceux qui veulent désarmer la police, ceux qui veulent ouvrir les prisons parce que la prison, c'est pas gentil, etc. Voilà, transformer l'Assemblée en ZAD, ça, éventuellement, c'est le risque.
Voilà pour cette déclaration de Marine Le Pen. Thomas Legrand, un commentaire, non ?
Bon, c'est un commentaire de Marine Le Pen assez efficace. Elle est assez
Marine Le Peniste.
Oui, elle est assez. C'est drôle parce que elle décrit ce qui se passe ailleurs et elle décrit pas du tout ce qui se passe chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi et n'a pas voulu faire un accord avec le reste de l'extrême droite. L'extrême droite est donc divisée et sera certainement très affaiblie après législative, ça, elle n'en parle pas.
Alex Darmon.
Non, ce qui est intéressant sur cette campagne des législatives, sur le digital, en tout cas à La République En Marche, c'est que cette journée de mardi, on sait qu'on leur a parlé de numérique. On leur a dit d'utiliser le numérique, de montrer leur présence sur le numérique et de mettre en avant cette jeune génération qui arrive à La République En Marche. Je pense à Alban Branland notamment, qui est l'une des plus jeunes à se présenter. Et ils communiquent énormément maintenant, que ce soit sur Twitter et sur Instagram, beaucoup, sur leur campagne et ils montrent ce qui se passe en campagne. Ils ont consigne, en tout cas, de faire des histoires et de raconter des récits autour de leur campagne pour montrer qu'ils sont sur le terrain.
Une journée de formation, je vous juste une parenthèse, c'était pas beaucoup, Marcel Ovesfred.
En fait, est-ce que c'était vraiment utile ? Je pose la question parce que 85% des députés sortants ont été réinvestis. Et ensuite, les autres, ceux qui ont été investis avec la bannière ensemble, majorité présidentielle, c'est beaucoup des gens qui venaient des cabinets du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, de l'Élysée, de Bercy, des gens qui connaissent la politique. En fait, Emmanuel Macron, pour assurer un peu, il a joué la sécurité, donc il a pris plutôt des gens qui étaient déjà en place et des professionnels de la politique. Donc en fait, moi je suis passé ce jour-là et c'est vrai que j'entendais, il y avait un ministre qui disait quand vous faites une... J'entendais dans une salle de réunion, il expliquait qu'avant une réunion militante, il faut que le collaborateur vienne vérifier que les micros sont bien allumés, que ça marche bien la sono. Bon,
c'est pas bête conseils, de rappeler les
conseils de bon sens. Mais en vérité, la plupart des gens qui étaient là, ils savent déjà comment ça fonctionne. Donc l'essentiel, c'était moins la formation que ce qu'on appelle dans les entreprises le team building, quoi, la motivation de groupe.
Et c'était au Doc de Bervilliers, le dernier endroit où on se réunit en politique, hein, puisqu'il y avait eu la NUP.
Cinq jours avant.
Quelques jours avant. J'en reviens à l'extrême droite, puisqu'on a entendu Marine Le Pen. Et pour qu'on dise un petit mot quand même d'Éric Zemmour, il a fini par se décider. Il a beaucoup hésité. Et finalement, Lorraine Dupont, ce sera dans la 4e circonscription du Var. On a bien compris que c'était Saint-Tropez. Pourquoi là-bas?
Parce que, comme le rappelait Cyril, déjà, il a fait un peu plus de 14% au premier tour de la présidentielle, qu'à Saint-Tropez même, je crois qu'il a fait 22 et quelques, enfin, j'ai plus le score précis en tête, mais il me semble que c'est ça. Et que donc, on rappelle juste que pour les législatives, pour être sélectionné, j'allais dire, pour le second tour, il faut faire 12,5% des voix, donc on va dire qu'il a une chance, voilà, même si il dit en privé qu'il sait que ses chances de victoire sont quand même minces. Et ensuite, la question, c'est aussi, pourquoi là-bas, mais pourquoi il se présente et est-ce qu'il a quelque chose à, est-ce que finalement il a quelque chose à y perdre? Moi, j'ai pas tellement l'impression. Contrairement à un Jean-Luc Mélenchon qui donne le sentiment quand même de refuser le combat, qui ne se présente pas, qui met à sa place Manuel Bompard, son bras droit, lui, au moins, on peut lui reconnaître de prendre les élections législatives au sérieux, de mener le combat, de mener son parti. Et à partir du moment où Reconquête, son parti, n'avait pas réussi à nouer d'alliance avec le Rassemblement National, il se retrouvait forcément un peu dans l'obligation de lui prendre le taureau par les cornes, en fait, tout simplement. Parce que il se retrouve avec des candidats qui sont, enfin, on l'a lu dans les médias, qui sont, qui ont des profils très compliqués.
D'identitaire.
Exactement. Quand je dis compliqué, je suis gentille. Enfin, d'identitaire, de oui, parfois de faits de violence. Enfin, il y a quand même tout un tas de profils. Qui laisse un peu songeur, donc il fallait aussi une espèce de porte-drapeau qui fasse, j'allais presque dire finalement, écran de fumée, c'est-à-dire qu'on se concentre un peu sur la personnalité et la candidature d'Éric Zemmour et qu'on oublie les autres candidats compliqués.
On aurait Thomas pu penser, Lebrun, puisque son grand sujet c'est le grand remplacement, on aurait pu penser qu'il aille sur un terrain soi-disant grand remplacé. Il préfère choisir le terrain où il a été bien
Vous
élu.
Dites que c'est pas très bonapartiste, c'est ça d'aller se battre à Saint-Tropez.
Oui,
si j'ai bien compris.
Se battre à Saint-Tropez ou qui n'est pas entre guillemets un terrain dit grand remplacé, mais un terrain où il fait des pas trop mauvais scores. C'est d'ailleurs assez intéressant que ça soit d'ailleurs dans les endroits non entre guillemets grand remplacé qui fasse des bons scores. Donc en fait, il est dans une impasse politique et il s'en sort avec une espèce d'attitude bravache. Je vais au combat à Saint-Tropez. Bon. La musique de Cyril Lacarrière était bien choisie.
Effectivement. On va voir maintenant comment se porte la nouvelle Union populaire écologique et sociale après une semaine d'existence. Mardi, donc, la NUP a publié une liste de 324 candidats investis. Mais depuis, il y a eu quelques ajustements, car la présentation en question a été parasitée par le cas de la candidature de Tahabouaf Savénissieux. C'est notre rubrique au like citoyen. Alex Darmon, l'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.
Oui, Claire, et sur Twitter, surtout, un Tahabouaf, c'était le candidat investi dans la 14e circonscription du Rhône, dans le cadre du grand accord NUP. Alors, c'est un journaliste militant de longue date à la France Insoumise, un jeune homme à la réputation controversée, à l'origine de fake news, condamné par la justice en première instance pour injure raciale envers une syndicaliste de police, condamnation dont il a fait appel. Il est aussi l'auteur de la vidéo où on voit Alexandre Benalla tabassant un couple parisien place de la Contrescarpe à Paris le 1er mai 2018. Une vidéo qui avait été largement relayée sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, Tahabouaf, c'est donc un enfant de tous ces nouveaux médias. Il en maîtrise tous les codes, il a grandi avec, son travail et sa communication en dépendent. Il profite du digital pour montrer ses reportages et même partager ses propos politiques. Faire des vues et gagner des abonnés, c'est donc dans sa culture.
Des réseaux sociaux qu'il maîtrise donc très bien et qui ont servi cette semaine à annoncer son retrait de la campagne législative.
Oui, retour en arrière. Dans la nuit de lundi à mardi, Tahabouaf décide de publier un communiqué sur son compte Twitter pour annoncer qu'il ne sera plus candidat dans le Rhône. La raison qu'il donne à ce moment-là, il était devenu à son tour la cible de propos racistes sur Internet et il était aussi pointé du doigt pour sa condamnation. Résultat, il décide de jeter l'éponge via un post Twitter, un message qui le fait apparaître immédiatement dans ce qu'on appelle sur Twitter les trending topics, hein, excusez-moi pour l'accent, c'est-à-dire de ces sujets dont on parle le plus. Ce tweet est liké plus de 26 000 fois et repartagé presque 8 000 fois. Tout de suite, des tweets de soutien affluent de partout sur le réseau, de Europe Écologie Les Verts avec Julien Bayou à Philippe Poutou pour le NPA. Clémentine Autain, la députée La France Insoumise, dénonce, elle, l'injustice et la violence venues de l'extrême droite contre un jeune homme issu des quartiers populaires. Vous l'avez compris, là aussi, le retrait de Tahabouaf devient, malgré lui ou pas, un vrai coup de communication digitale réussie et peut-être même très préparé.
Préparé, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on apprend tout juste quelques heures après, par l'intermédiaire de plusieurs médias, qu'en réalité Tahabouaf se serait surtout retiré de cette campagne car il est accusé de violence et d'agression sexuelle. Des accusations qui remontent au samedi précédent, une enquête est même ouverte au sein de la France Insoumise pour vérifier les faits. Là, c'est la consternation à gauche. Ceux qui ont tweeté leur soutien font tout de suite machine arrière, plus ou moins embarrassés. Hein. Philippe Poutou et Julien Bayou reviennent sur leurs propos. Le patron des Verts écrit « Hier, j'ai soutenu Tahabouaf contre le racisme. Aujourd'hui, je prend connaissance des accusations de violence sexuelle à son encontre, soutien aux victimes, nous vous croyons. Aussi, je supprime mon tweet d'hier pour éviter toute mauvaise interprétation. » Fin de citation. Mais alors que certains cadres de la France Insoumise semblaient au courant de cette histoire, écoutez ce que dit Aymeric Caron aux médias de l'opinion sur YouTube au sujet des tweets de soutien à Tahabouaf.
Il reçoit des messages de soutien de personnes qui ignorent à ce moment-là qu'il y a ces signalements.
Clairement,
les messages. Alors, ça, c'est une question qu'il faut poser à Clémentine. Je n'ai pas l'agenda de Clémentine Autain.
Clémentine Autain, elle, dans son agenda, elle confirme avoir été au courant dès samedi. Elle a bien posté son message de soutien sur Twitter tout en connaissant les accusations portées contre Taha Bouaf. Elle ne supprimera pas son tweet et se justifie sur Mediapart.
Attention, là il y a quelque chose de très grave qui est en jeu. Il s'agit d'agression sexuelle et cela n'enlève strictement rien de tout ce que nous avons dit et avons encore à dire sur ce climat absolument insupportable qui fait qu'un jeune homme issu des quartiers populaires devient une espèce de tête de turc d'une violence inouïe.
Elle poursuivra en expliquant que la France insoumise a réglé, je cite là aussi, hein, l'affaire en 5 jours. Clémentine Autain qui s'est félicitée pour terminer sur Twitter de la réaction de son parti. Quelle force politique agit aussi vite dans des affaires de cette gravité?
Voilà, j'ajoute que Sandrine Rousseau a dit la même chose exactement hier sur France Inter, que Jean-Luc Mélenchon aussi a dit la même chose aujourd'hui sur France 3. C'est vrai que tous les partis ne sont pas aussi prompts à réagir face à de tels cas, Laureline Dupont.
Oui, enfin, on peut aussi dire que ça illustre quand même le manque de transparence et une certaine mauvaise foi là de la France insoumise, parce que les histoires, enfin, les histoires d'agenda, pardon, que cette affaire met en lumière, met un petit peu mal à l'aise. Et l'autre chose, je trouve que laisse avoir l'affaire Bouaf, c'est que finalement, en s'évertuant depuis des semaines, des mois à amalgamer dans une espèce de même épouvantail l'extrême droite et ceux qui juste sont un petit peu critiques sur la personnalité de Taha Bouaf, qui est quand même un activiste qui a aux méthodes controversées. Il y a un papier dans le Parisien qui le rappelle très bien ce matin, qui à la fois se met en tête des manifs tout en se prétendant journaliste. Enfin, bref, en faisant cela, la France insoumise, et, enfin certains de ses dirigeants, je trouve, ont quand même contribué aussi à rendre Taha Bouaf intouchable et à minimiser de fait la parole là des victimes que sont les femmes.
Thomas Legrand.
Oui, je souscris tout à fait à votre analyse. Moi, je dirais simplement que finalement, c'est pas mal que un troll, parce qu'il est surtout troll. Il est journaliste aussi, hein, et c'est grâce à lui l'affaire Benalla. C'est grâce à lui, c'est un scoop.
C'est lui qui a filmé.
C'est un scoop journalistique.
On lui doit les images.
Mais ces méthodes de troll, je suis pas sûr qu'elles soient les bienvenues à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, on doit avoir des débats construits, des débats apaisés, qui peuvent être aussi durs, mais des débats idéologiques, mais pas ces méthodes de troll. Et au-delà de tous les agendas croisés que vous avez racontés et qui disent beaucoup de choses, au total, c'est pas mal qu'un troll ne soit pas à l'Assemblée.
Alors, il faut dire une chose, c'est que NUP présente toutes sortes de profils de candidats à ces élections. Je cite juste Rachel Keke qui a mené la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Paris. C'est un nouveau profil. Il y a aussi Stéphane Ravaclé, boulanger qui a fait une grève de la faim pour la régularisation de son apprenti. Dans le Doubs, je vous dis juste qu'il y a des profils différents qui pourraient faire leur apparition à l'Assemblée si les personnes en question étaient élues. Un petit mot des dissidences à gauche, parce que tout n'a pas été réglé avec l'accord de la NUP. À Paris, Lamia El Haraj maintient sa candidature face à Danielle Simonet. Elle est socialiste. Il y a des dissidences sérieuses dans certains départements. Marcelo Westfred, du côté du PS, il y a des endroits où ça ne passe pas, l'absence de candidature socialiste.
Oui, notamment en Occitanie, où Carole Delga, la présidente de région, a décidé de maintenir sa confiance à des candidats sur place. Ça va faire désordre. Après, c'est vrai qu'il y a des candidats LFI sur certains territoires, parce que la NUP, évidemment, c'est un accord entre plusieurs formations, et logiquement, la France Insoumise s'est taillée la part du lion, compte tenu de ses résultats à la présidentielle. Il y a des endroits où, voilà, il y a des candidatures qui auront du plus de mal à percer, et certains élus locaux qui sont enracinés voudront défendre leur chance. Après, la bannière unitaire peut être quand même un argument assez efficace.
France Inter, un dimanche de campagne, Claire Servagen.
Allez, pour terminer, on en revient à la semaine à venir, chargée, hein, forcément, on en a déjà parlé. Outre le chef ou la chef du gouvernement qu'on attend demain, est-ce qu'il y a d'autres noms qui sortent pour faire partie du gouvernement, Marcelo Westfred?
Il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont rester, vraisemblablement. Par exemple, Bruno Le Maire, vendredi matin, il était à l'Élysée, etc. Il y a des incontournables de Darmanin et autres. Et puis, il y a les nouvelles têtes. Il faudra quand même qu'il y ait des nouvelles têtes. Donc, par exemple, on parle de Rachel Kahn, l'écrivaine, je sais pas comment faut dire. On parle de, voilà, il y a des personnalités. Il faudra trouver des personnalités issues de l'écologie, quand même, lesquelles on sait pas. On parle de Madame Cailleux, la maire de Beauvais aussi, venue de la droite. Donc, c'est ces personnalités-là qu'on va voir, a priori, lundi, mardi, pour un conseil des ministres, mercredi, voire jeudi.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est en train d'éplucher les données des uns et des autres. Dans le plus grand secret, il n'y a rien qui fuite de ce côté-là, Marcelo ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on les appelle, ils ne veulent même pas parler. Ils renvoient leur rapport d'activité. C'est vraiment bunkérisé. À Palais Royal. Ils ont reçu, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont reçu une dizaine de dossiers. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait des demandes à cette haute autorité pour regarder. Ils regardent deux choses. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Est-ce que la personnalité susceptible de rentrer au gouvernement est aussi en règle par rapport au fisc? Donc là, il y a un appel au fisc ou à Tracfin et on regarde ça. C'est très rapide, ça prend deux jours. C'est évidemment assez grossier. D'ailleurs, on a vu des tas d'exemples de Griset à Laura Flessel, de gens qui ont été le profil a été scanné, puis finalement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y aura dans un deuxième temps, si vraiment ces gens rentrent au gouvernement, quelque chose d'un peu plus robuste, avec des déclarations d'intérêt, des déclarations de patrimoine, cette fois-ci déclaratives. Ce qui est sûr, c'est que à ce stade, Macron envoie une dizaine de demandes. Sur cette dizaine de demandes, c'est pas les 10 qui vont rentrer au gouvernement. Il sait très bien qu'il y en a qui vont lui refuser la proposition. Et on envoie toujours quelques leurres, parce qu'il y a quand même de temps en temps quelques fuites. Et dans ces cas-là, ça permet d'éviter que ça fasse des dégâts.
Laureline Dupont, outre le gouvernement qu'on attend, est-ce qu'il peut y avoir des changements à l'Élysée ? Et si oui, de quel ordre ?
J'allais vous dire, le truc à observer cette semaine, c'est le remaniement caché, entre guillemets, effectivement, à l'Élysée. Alors Emmanuel Macron dit beaucoup en ce moment, je vais tout changer, etc. Toute la Macronie tremble devant cette affirmation. La vraie question, c'est est-ce qu'il change ou pas le secrétaire général de l'Élysée, à savoir Alexis Colère. Et ce sera un vrai signal politique que le grand public ne va pas forcément percevoir d'emblée, mais ça en dira très très long sur la politique qu'il entend mener et la couleur de ce quinquennat.
Marcel Vesprez.
Peut-être que le grand public le verra, puisque normalement il y a une proclamation au perron par le secrétaire général de l'Élysée. Or, si il est sur le départ, bon, surtout s'il est nommé au gouvernement, parce que les rumeurs le donnaient un moment au gouvernement. Que se passera-t-il ? Est-ce qu'il sera lui-même juge et parti en train de révéler les noms et de se mettre dans la liste des heureux élus ?
Thomas Legrand.
Moi, ce que j'attends cette semaine, c'est la nomination du Premier ministre et surtout son discours de politique générale. Le Premier ministre, une fois qu'il est élu, il va évidemment devant l'Assemblée, parce que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et il y aura un discours de politique générale.
Ça, c'est pas tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps. C'est après...
Il y en a déjà un avant les législatives. Il faut bien qu'il dise... D'ailleurs, c'est un discours de campagne. C'est le chef de la majorité. Et le discours de politique générale va nous dire si, effectivement... c'est Catherine Vautrin, par exemple, va nous dire si elle est écologiste. Donc c'est intéressant.
Alors, il nous reste 20 secondes. Marcel Ovestred, les journalistes sont à l'affût. Vous essayez d'avoir des infos, mais les politiques aussi essayent d'en avoir.
C'est une période où il y a peu d'infos, il y a beaucoup de rumeurs, et donc c'est un moment curieux où même les politiques appellent les journalistes, alors que c'est évidemment l'inverse et c'est normal,
pour avoir des infos,
pour recouper des choses, et au final la rumeur alimente la rumeur, donc journalistiquement on est pressé d'avoir enfin des noms pour commencer à travailler sur des vrais choses.
Tout ce qu'on a dit là depuis une heure finalement.
Non.
C'est fini, merci beaucoup à tous les quatre.
Ne vous résignez pas.
Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Vive la République ! Vive la liberté !
Vive l'écologie !
Vive la France !